Audiolib présente Les Rois Maudits, tome 5, La Louve de France, de Maurice Druon, lu par Jérémy Covillo. Un livre audio enregistré avec le soutien du Centre National du Livre. Louve de France, dont les crocs acharnés déchirent les entrailles de ton époux mutilé. Thomas Gray. Prologue. Et les châtiments annoncés, les malédictions lancées du haut de son bûcher par le grand maître des Templiers, avaient continué de rouler sur la France. Le destin abattait les rois comme des pièces d'échecs. Après Philippe le Bel foudroyé, après son fils aîné Louis X au bout de 18 mois assassiné, le second fils, Philippe V, paraissait promis à un long gouvernement. Or, à peine 5 années écoulées, Philippe V mourait à son tour avant d'avoir atteint 30 ans. Arrêtons-nous un instant sur ce règne qui ne se présente comme un répit de la fatalité qu'en regard des drames et des écroulements qui allaient lui faire suite. Règne pâle, semble-t-il à celui qui feuillette l'histoire d'un geste distrait, sans doute parce qu'il ne retire pas de la page sa main teinte de sang. Et pourtant, voyons de quoi sont faits les jours d'un grand roi quand le sort lui est contraire. Car Philippe V le Long pouvait compter au nombre des grands rois. Par la force et par la ruse, par la justice et par le crime, il avait, jeune homme encore, saisi la couronne mise aux enchères des ambitions. Un conclave emprisonné, un palais royal enlevé d'assaut, une loi successorale inventée, une révolte provinciale brisée par une campagne de 10 jours, un grand seigneur jeté en cachot, un enfant royal tué au berceau, du moins à ce que chacun croyait, avait marqué les rapides étapes de sa course au trône. Le matin de janvier 1317, où toute cloche sonnant dans le ciel, il était sorti de la cathédrale de Reims, le deuxième fils du roi de fer possédait d'évidentes raisons de se penser triomphant et libre de reprendre la grande politique qu'il avait admirée chez son père. Sa turbulente famille s'était par obligation inclinée. Les barons, matés, se résignaient à son pouvoir. Le Parlement subissait son ascendant et la bourgeoisie l'acclamait, tout à l'enthousiasme d'avoir retrouvé un prince fort. Son épouse était lavée des souillures de la tour de Nesle. Sa descendance semblait assurée par le fils qui venait de lui naître. Le sacre, enfin, l'avait revêtu d'une intangible majesté. Rien ne manquait à Philippe V pour jouir du relatif bonheur des rois, et pas même la sagesse de vouloir la paix et d'en connaître le prix. 3 semaines plus tard, son fils mourait. C'était son seul enfant mâle, et la reine Jeanne, désormais frappée de stérilité, ne lui en donnerait plus d'autre. Au début de l'été, une famine ravageait le pays, jonchant les villes de cadavres. Puis bientôt, un vent de démence souffla sur toute la France. Quel élan aveugle et vaguement mystique, quels rêves élémentaires de sainteté et d'aventure, quel excès de misère, quelle fureur d'anéantissement poussèrent soudain garçons et filles des campagnes, gardiens de moutons, de bœufs et de porcs, petits artisans, petites fileuses, presque tous entre 15 et 20 ans, à quitter brusquement leur famille, leur village, pour se former en bandes errantes, pieds nus, sans argent ni vivre. Une incertaine idée de croisade servait de prétexte à cet exode. La folie, en vérité, avait pris naissance dans les débris du temple. Nombreux étaient les anciens templiers que les prisons, les procès, les tortures, les reniements arrachés sous le fer rouge et le spectacle de leurs frères livrés aux flammes avaient rendus à demi-fous. Le désir de vengeance, la nostalgie de leur puissance perdue et la possession de quelques recettes de magie apprises de l'Orient en avaient fait des fanatiques, d'autant plus redoutables qu'ils se cachaient sous l'humble robe du clerc ou le sarrau du tâcheron. Reformés en société clandestine, ils obéissaient aux ordres mystérieusement transmis du grand maître secret qui avait remplacé le grand maître brûlé.